Pierre Jacquon, une vengeance anglaise. Il y a à Londres un quartier dont la physionomie n'a été qu'esquissée jusqu'ici et qui méritait cependant une mention spéciale dans les récits des romanciers modernes de la Grande-Bretagne. Nous voulons parler du quartier sur lequel se trouve située la prison de la flotte, dont les limites ont conservé, comme on le sait peut-être, les privilèges et les franchises des anciens asiles. En donnant au prévôt de la flotte des garanties pour le montant de la somme due à son incarcérateur, chaque prisonnier peut obtenir l'autorisation de résider aux environs de la prison et jouir ainsi d'une liberté relative. Il résulte de cette tolérance que ce quartier est presque entièrement habité par une agglomération interlope de banqueroutiers maladroits et de débiteurs insolvables, auxquels se mêle une population flottante d'ivrognes fainéants et de filous actifs, de telle sorte que, passé une certaine heure de la nuit, il est bien rare d'y rencontrer une figure honnête. Cependant, le 25 novembre de l'année 1838, vers 10 heures du soir, un homme, qui n'était ni banqueroutier, ni débiteur insolvable, ni ivrogne, ni filou, parcourait à pas rapides et pressés l'une des rues étroites qui longent les prisons de la flotte. Cet homme pouvait avoir une cinquantaine d'années. Il était petit, gros, replet, et sa physionomie, animée par deux yeux vifs et doux, annonçait une nature placide que les soucis de la vie n'avaient jamais dû beaucoup inquiéter. Il allait et venait le long des murs, s'arrêtant parfois pour plonger son regard dans la salle enfumée de quelques cabarets borgnes, et reprenant aussitôt sa course jusqu'à ce qu'un nouveau sujet d'observation vînt la suspendre de nouveau. Monsieur Gusbrowth était certainement le personnage le plus original des trois royaumes. À toute heure du jour, de la nuit, on le rencontrait dans les endroits les plus différents de la capitale. Il était presque aussi connu des pickpockets qui grouillent dans la cité que des gentlemen qui font la roue à Bond Street. M. Gusbrowth appartenait d'ailleurs à une des familles les plus honorables de Londres. Son oncle maternel avait été Lord Maire et son grand-père avait siégé avec honneur sur le banc de la Chambre des communes. Sa fortune était, disait-on, colossale. Mais il n'avait jamais voulu se marier dans la crainte de rencontrer une femme dont le caractère ne sympathisât point avec le sien ou dont l'esprit étroit eût pu gêner la passion discrète qui faisait depuis si longtemps le but unique de toute sa vie. Cette passion secrète, le lecteur la connaîtra bientôt. En parler plus longuement ici serait retarder sans utilité ce récit. On nous permettra donc de continuer notre course à travers les rues sales et sombres qui entourent la prison de la flotte et d'y suivre l'honorable personnage que nous mettons en scène. M. Gusbrowth avançait avec une certaine difficulté. Une petite pluie fine s'était mise à tomber. Le pavé était gras et glissant. Il hâtait le pas cependant et regardait de tous côtés, à droite et à gauche, pour s'assurer qu'il ne se trouvait pas à porter un cab disponible. Mais à cette heure et dans ces parages, un cab ne se trouve pas facilement. Et M. Gusbrowth poursuivait sa route en soufflant tant bien que mal et en laissant échapper de temps à autre un juron énergique. Tout à coup, il s'arrêta et poussa une exclamation de douleur. Il venait de tourner une des plus mauvaises rues du quartier, quand un homme, vêtu comme un artisan, le heurta violemment au passage. « Mais voilà, sur ma parole, une singulière manière de saluer les gens !» s'écria M. Brough avec humeur. « Savez-vous, l'ami, que vous avez manqué m'écraser les pieds ?»« Oh, votre honneur m'excuse, » répondit l'inconnu, « mais la nuit est si noire que je ne l'avais pas vue. » Et il allait s'éloigner quand M. Brough lui mit la main sur l'épaule. « Mais le ciel me confonde si je me trompe, » ajouta-t-il avec un air de profond étonnement. « Mais oui, Je ne m'appelle pas Gus Brown de Piccadilly, ou vous êtes M. Samuel Ramdon de la maison Barnington et compagnie. » L'homme que l'on interpellait parut vivement contrarié d'être reconnu, mais comme sans doute il comprit l'impossibilité de nier l'évidence, il porta la main sa casquette de toile cirée et ne chercha pas davantage à se cacher. « Monsieur Samuel Hamden, reprit Monsieur Brough. « Moi-même, monsieur, répondit son interlocuteur. « Et comment vous trouvez-je ici à cette heure, quand tout Londres vous croit dans Lombard Street ?» Samuel sourit. « Mais vous-même, répliqua-t-il d'un ton embarrassé, et pour donner le change, comment se fait-il que vous soyez si loin de Piccadilly, surtout par un temps pareil ?» Monsieur Brough haussa les épaules, sans prendre garde à l'embarras de Samuel. « Oh, moi, c'est différent, » dit-il avec vivacité. « Pour le moment, je sors de la prison de la flotte. »« Est-ce possible ?»« Je n'en impose pas d'une syllabe, mon cher monsieur Samuel. »« La prison de la flotte est un lieu curieux à observer. » Et comme le prévôt est un de mes amis, j'y vais de temps en temps pour y prendre des renseignements statistiques qui sont d'un haut intérêt et que nos hommes d'État ignorent pour la plupart. Je fréquente aussi tous les quartiers qui peuvent offrir quelques sujets d'observation. Et j'ai dans Piccadilly bien des documents que l'on paierait fort cher à la Chambre des communes ou chez le Lord Maire. « Et quels documents ?» fit Samuel. Tout en causant, il s'était remis en marche. « Voyez-vous, cher Monsieur Sam, » poursuivit bientôt après Monsieur Brough, « la ville de Londres est la première cité du monde, et quand vous vous levez le matin, vous êtes loin de vous douter les dangers que vous avez courus pendant la nuit. »« Moi ? Oui, vous et les autres. »« Mais comment cela ? Oh, cela vous étonne, n'est-il pas vrai ? Mais vous ignorez, vous et les autres, qu'il y a à Londres 118 951 vauriens dont l'existence est un problème et qui ne peuvent vivre qu'à vos dépens et aux miens, que l'on n'y compte pas moins de 115 430 pickpockets, 2295 vagabonds et 75 710 filles perdues. « Sans doute, » fit Samuel, « mais tout cela est connu de la police, et elle a l'œil sur eux. »« Eh, qui dit le contraire, cher monsieur Hamden ? La police est une admirable institution, et la capitale des Trois Royaumes n'a pas sa pareille en Europe, mais il n'en est pas moins constant que l'on arrête toutes les nuits, dans les 26 quartiers de Londres, un nombre de citoyens qui varie de 150 à 170. » Que l'on en égorge de 5 à 10 et que l'on enlève de 15 à 18 jeunes filles. Tout cela, croyez-le bien, sans que les 26 aldermen n'y puissent rien, non plus que vous et moi. Une fois que M. Brough avait enfourché son âne, comme dit Stern, il n'était pas facile de l'arrêter. Samuel Hamden connaissait sa manie. Il se contenta donc de l'écouter, et se borna, par pure obligeance, à lui donner la réplique. « Tenez, » poursuivit l'honorable membre de la Société de statistiques, « la plaie de notre état social n'est pas dans le manque d'institutions. Dieu pardonne, le Parlement ne nous les marchande pas, et les savants sont là d'ailleurs pour y pouvoir au besoin. Il y a à Londres, monsieur Sam, 18 écoles où l'on enseigne le droit, sans compter les 5 écoles de théologie, et les 40 académies où l'on s'occupe toute l'année des moyens pratiques d'améliorer le sort de l'humanité. Mais qu'est-ce que cela prouve, je vous prie ? Il n'y aura rien, monsieur Hamden, absolument rien. Je le crois comme vous. Cela n'empêche pas que les 14 prisons de Londres ne regorgent de malfaiteurs, et qu'il y ait en outre chaque jour 20 295 individus qui se lèvent sans savoir comment ils se procureront leur nourriture, ni où ils trouveront un gîte. Mais j'ignorais cela. Et comment le sauriez-vous, cher monsieur Sam ? Il faut aller et venir comme je le fais. Regardez et observez à toute heure de la vie, pour connaître à fond toutes les couches de cette société au milieu de laquelle nous nous croyons bien en sûreté, et dont la plupart des membres n'ont même pas la moralité douteuse des sauvages de l'Amérique. Oh, oh, interrompit Samuel avec complaisance. Il me semble, monsieur Brough, que cette assertion... Elle n'est qu'exacte, poursuivit le statisticien. Car il faut bien le reconnaître, l'immoralité a monté peu à peu des dernières classes de la société. Et la voilà qui, depuis quelques années, atteint et corrompt les sphères élevées. Tous les ans, il y a dans Londres, la première cité du monde, savez-vous, 10 banquiers qui trompent et ruinent leurs actionnaires, 25 caissiers qui disparaissent avec les guinées de leurs patrons, 50 officiers publics qui malversent, 200 qui prévariquent, et les sociétés en commandite qui se sont fondées qu'en vue de faire des dupes, et les entreprises qui n'ont d'autre mobile que le jeu. Nous vivons, cher monsieur Sam, dans un temps où l'ardeur de s'enrichir cause bien des désastres. Dès qu'on offre au public l'appât d'un gros intérêt, on fait tourner toutes les têtes. Et considérez que souvent, le plus fripon n'est pas celui qu'on pense. Ce sont quelquefois les actionnaires eux-mêmes dont la cupidité autorise et légitime presque toutes ces turpitudes. Aussi longtemps qu'on distribue des dividendes, qui s'inquiète du reste? Qui fait la moindre question sur la marge d'une affaire ou sur la moralité de ceux qui l'amènent? Les actionnaires sont les complices des entrepreneurs. Et ces derniers détrousseraient les voyageurs sur les grandes routes pour leur payer des dividendes que, Dieu pardonne, ils les empocheraient, sinon sans inquiétude, du moins sans remords. Étudiez, monsieur Sam, étudiez, et vous verrez si monsieur Brough de Piccadilly ne sait pas la vérité sur bien des choses et s'il n'y a pas là de grandes réformes à tenter. Sans doute monsieur Gusbrough de Piccadilly aurait continué longtemps sur le même ton si un incident inattendu n'était venu lui couper la parole. Mais au moment où il finissait, un grand cri s'éleva à quelque distance et le bruit d'une rixe sanglante arriva jusqu'à eux. Samuel s'était arrêté subitement. « Avez-vous entendu ?» dit-il à voix rapide à M. Brough. « Parfaitement, » répondit ce dernier. « Mais on égorge quelqu'un à 50 pas. Oh, c'est vraisemblable. Mais n'irons-nous pas à son secours ?» M. Brough remua la tête en signe de refus. « Pour moi, » répondit-il, « je ne pense pas que cela soit prudent. » « Mais les cris redoublent, » insista Samuel. « Mais j'entends bien. »« Ah, il ne sera pas dit que j'aurais hésité plus longtemps. »« Allez, mon jeune ami, allez, et le ciel fasse que vous ne vous repentiez pas d'avoir cédé si facilement à l'impulsion de votre cœur. » Samuel était déjà loin. Il était parti sans écouter M. Brough, et ce dernier avait repris tranquillement son chemin. Quelques matelots ivres de gin, poursuivit-il en pressant le pas, ou quelques débiteurs qui auraient été surpris par son créancier, car c'est là tout ce que l'on peut rencontrer à cette heure dans ce quartier désert. Et il s'arrêta, comme frappé d'une idée subite. Au fait, s'écria-t-il, presque effrayé de l'audace de sa propre pensée, que venait donc faire ici M. Samuel Hampden lui-même? Ce n'est point un fait ordinaire et naturel que la présence à cette heure de nuit du caissier de la maison Bonington & Company dans les environs de la prison de la flotte, d'autant qu'il portait un costume autre que le sien et qu'il apparut fort contrarié d'être reconnu. Certes, il y a là un mystère qui demande à être éclairci. Et demain, M. Bonington en sera instruit, comme il convient qu'il le soit. Pendant que M. Gusbrough se livrait à ses réflexions, Samuel Hampden s'était éloigné rapidement et, guidé par les cris de la victime, il atteignit en quelques secondes le théâtre du crime. Samuel était un véritable Anglais. On l'avait familiarisé de bonne heure avec tous les exercices du corps. Il connaissait l'art du pugilat comme les meilleurs boxeurs de la cité. Sans être beau, il possédait cependant une certaine élégance de forme qui n'était pas sans charme. Et il se montrait d'ailleurs généralement taciturne, et bien que M. Bonington, son patron, lui prît en grande affection et lui témoigna à tout propos une franche amitié, Samuel s'était toujours tenu vis-à-vis de lui dans une réserve qui pouvait être taxée de froideur. Quand il se présenta sur le lieu d'où partaient les cris qu'il avait attirés, la lutte venait de se terminer. Un grand diable de domestique était étendu par terre, étourdi ou tué, et deux hommes, d'allure plus que suspecte, s'apprêtaient à entraîner une jeune fille qui se débattait vainement entre leurs bras. Samuel, n'écoutant que son courage, s'élança vers l'un des deux hommes, sur le crâne duquel il asséna d'une main ferme le plus violent coup de poing que l'art de la boxe ait jamais enseigné. L'effet fut instantané. L'homme poussa un grognement plaintif et alla rouler sans connaissance auprès du domestique. Mais le plus difficile restait à faire. Le second bandit était un gaillard de près de 6 pieds qui ne devait pas lâcher facilement sa victime. Le sort de son compagnon lui avait d'ailleurs communiqué une colère redoutable, et après avoir, d'un geste rapide et prompt, déposé à ses côtés la jeune miss qui venait de s'évanouir, il se précipita sur Samuel, le regard fulgurant, les poings fermés. Le lieu était admirablement choisi pour une pareille scène. Une rue étroite et sale, éclairée par des réverbères fumeux, une petite pluie fine qui rendait le pavé glissant, un ciel sombre et tout autour des masures en mauvais état, à l'intérieur desquels on n'entendait rien remuer, un véritable coupe-gorge. Le premier coup porté fut terrible. Samuel se tenait pourtant sur la défensive, mais c'est à peine si, à travers la nuit, il aperçut son adversaire, et celui-ci lui envoya un coup de poing qui l'eût infailliblement assommé, si, trompé lui-même par l'obscurité, il n'avait dévié de quelques lignes. Le coup glissa donc sur la tempe de Samuel et alla tomber lourdement sur son épaule. Samuel ne proféra pas la moindre plainte. Il ne recula même pas d'une semelle. Seulement, comme son adversaire se trouvait à sa portée, il ne crut pas devoir lui laisser le temps de se rejeter en arrière et, prompt à la riposte, animé de plus par l'irritation même de la lutte, il lui appliqua vigoureusement un de ses poings sous la mâchoire et l'autre dans l'épigastre. Oh, le coup est traître, mais il est infaillible. Le second bandit poussa un cri de douleur, s'affaissa sur lui-même et prit place à côté de son compagnon. Samuel était maître du champ de bataille et, sans attendre de nouvelles complications, il courut à la jeune fille dont l'évanouissement venait de cesser et qui revenait insensiblement à la vie. Vos ravisseurs sont pour le moment dans l'impossibilité de vous faire aucun mal, lui dit-il aussitôt à voix rapide. Mais l'endroit où nous voici est dangereux, il faut en sortir au plus tôt. Essayez donc, miss, de prendre mon bras, et avant quelques minutes, nous aurons trouvé un cab qui nous ramènera chez vous. La jeune fille était enveloppée d'un long châle, ses traits étaient entièrement cachés par un voile épais. Dès les premières paroles prononcées par Samuel, elle releva vivement la tête et fixa sur lui ses deux regards curieux et étonnés. « Mais qui me parle ? » dit-elle alors avec un geste d'émotion et comme si elle doutait encore de la réalité. « Un ami, miss, répondit Samuel, un homme qui a eu le bonheur de vous sauver et dont vous n'avez rien à craindre. « Mais qui êtes-vous donc ? Qu'importe. Mais votre voix ne m'est pas inconnue, c'est possible. Mais vous êtes monsieur Samuel Hampden ? Que dites-vous ? Samuel se dressa interdit et chercha à percer le voile qui couvrait le visage de la jeune fille, mais cette dernière craignit sans doute le résultat de cet examen, car elle se leva presque aussitôt et, prenant le bras du jeune homme, elle l'entraîna loin de cette rue, dans la direction de Bernard Street. 10 minutes après, il trouvait un fiacre et la jeune Miss, toujours voilée, se hâtait d'y prendre place. Toutefois, avant de monter, elle se retourna vers Samuel et lui tendit la main. « Monsieur Hampton, lui dit-elle d'une voix douce et tendre, vous m'avez sauvé la vie ce soir, et croyez-le bien, je n'oublierai jamais ce service. À bientôt donc, et avant peu je vous prouverai que je ne suis pas ingrate. » En disant ces mots, elle monta lestement dans le fiacre, et le cocher ayant fouetté son cheval, il partit au galop, laissant Samuel vivement intrigué et cherchant vainement dans ses souvenirs quelle pouvait être cette jeune fille qui le connaissait si bien. Tout en rêvant, il reprit à pas lents son chemin vers Lombard Street. La distance est longue et il s'arrêta plus d'une fois sur sa route. Quand il arriva au siège de la maison Bonington et compagnie, il était près de minuit. Il se hâta de gagner la chambre qu'il y occupait. Cependant, au moment de rentrer chez lui, il s'aperçut pour la première fois qu'il régnait un mouvement inusité parmi les domestiques et en demanda la cause. « Bon, ce ne sera rien, monsieur Hampton, répondit un valet qui passait. C'est John, le domestique de monsieur Bonington, qui a été rapporté tout à l'heure dans un assez triste état. Il prétend qu'il a été attaqué par 2 bandits, mais sa blessure est peu grave, et dans quelques jours il n'y paraîtra plus. » Et le valet s'éloigna. Samuel n'en demanda pas davantage, mais un frisson courut sous ses cheveux. Monsieur Bonington avait 2 filles. Laquelle des 2 avait-il donc rencontrée près de la prison de la flotte? Le lendemain du jour où se passaient les événements que nous venons de raconter, il y avait une petite réunion chez M. Bonington de Lombard Street. M. Bonington était un gros personnage du commerce de Londres et sa maison, qui avait une succursale à Calcutta, possédait une certaine influence sur les transactions de la plupart des marchés importants de l'Angleterre. Son hôtel était donc assidûment suivi et ses 2 filles se trouvaient le point de mire et de plus d'un gentleman. Depuis longtemps, M. Bonington était veuf et, en bon père de famille, il n'avait jamais voulu se remarier. De ses 2 filles, l'une, Miss Ophelia, était déjà grande, l'autre, Miss Lucy, était toute jeune encore. Il ne crut pas que, dans cet état de choses, il pût remettre à des mains étrangères le soin d'élever ses enfants. Et depuis 8 années bientôt, c'est lui qui s'était presque exclusivement chargé de leur éducation. Fût-ce un bien ou un mal, il serait difficile de le dire d'une manière précise. Ce qu'il y a de certain, c'est que les 2 filles de M. Bonington avaient grandi et s'étaient développées dans un sens différent, et que, nourries des mêmes principes, elles offraient des résultats diamétralement contraires. Explique qu'il pourra cette contradiction. Miss Ophelia était longue, un peu sèche, très blonde, et réalisait, dans sa plus complète expression, le type guindé et froid des jeunes misses que la Grande-Bretagne verse à certaines époques périodiques sur le continent européen. Comme la plupart des insulaires, bien qu'elle professât un enthousiasme sincère pour les modes françaises, elle avait coutume de se mettre d'une façon romanesque qui frisait de bien près l'extravagance. Et comme l'impunité était d'avance acquise à ses ridicules, elle ne s'aperçut pas de l'effet qu'il pouvait produire sur la partie sérieuse de son entourage. La lecture mal dirigée de Shakespeare de Shakespeare, de Milton, de Walter Scott, de Lord Byron, jeta d'ailleurs de bonne heure une grande confusion dans son esprit. Elle en reçut des impressions dont elle s'exagérait elle-même la portée, et il lui arriva fréquemment, dans ses inspirations extravagantes, de se prendre pour une de ces individualités impossibles que les poètes créent parfois dans le but de faire pièce à la réalité. Miss Ophélia avait alors 24 ans. Quant à Lucie, elle en comptait 17 à peine, et c'était bien la plus charmante enfant que le regard d'un homme eût jamais contemplée. Elle avait de beaux cheveux châtains qui encadraient harmonieusement le pur ovale de son visage, des dents d'un émail éblouissant, des yeux bleus tout animés de curiosité naïve. On eût dit que la nature avait mis une sorte de coquetterie à former ce ravissant chef-d'œuvre de grâce et d'élégance. Sa taille était souple et ronde, ses deux mains délicates et fines, et son pied, bien attaché, eût chaussé le soulier d'un enfant. De toutes ces perfections, Lucie ne tirait pas vanité. Elle savait bien qu'elle était jolie, cependant, mille regards lui avaient dit déjà, et ne l'eût-elle pas appris de la sorte qu'elle eût deviné, grâce à cet admirable instinct que Dieu a mis au cœur de la jeune fille. Elle ne connaissait ni Walter Scott, ni Byron, encore moins Milton et Shakespeare, mais sous le voile transparent et chaste de son ignorance, il y avait dans son cœur plus de poésie que dans aucun poème humain. Le salon de M. Bonington se trouvait donc ce soir-là rempli d'un choix d'amis intimes, parmi lesquels on distinguait quelques gentlemen appartenant pour la plupart au haut commerce de Londres. Ce n'était d'ailleurs qu'un petit comité, comme disait Miss Ophélia, et la réunion ne devait pas se prolonger fort avant dans la soirée. Depuis quelques semaines, Miss Ophélia semblait avoir abandonné les hauteurs de la poésie romanesque qu'elle avait fréquentée si longtemps, et en renonçant à chercher son idéal dans les régions nébuleuses de ses rêves, elle avait fini par le rencontrer sur la terre. C'était un fort bel homme, ma foi, major au service de la Compagnie des Indes, et qui venait d'arriver directement de Calcutta. Mais Sophilia s'était éprise assez rapidement de son teint râlé, de ses belles dents blanches et de son uniforme resplendissant. Le major Turner possédait au surplus toutes les qualités qui ont le privilège d'attirer l'attention des femmes de l'âge d'Ophélia. Il était froid, se mettait avec un goût exquis, parlait de l'Inde dans une langue étrange et savait commander l'intérêt sans jamais imposer sa personnalité. Le major était pour ainsi dire le lion de la saison, et soit que la fortune d'Ophélia l'eût séduit, soit qu'il aimât les femmes longues et sèches, toujours est-il qu'il fréquentait assidûment la maison Bonington et compagnie, et que le bruit de son mariage avait déjà couru par le monde. On causait au milieu du salon et autour de la cheminée. Miss Lucy allait et venait avec une sorte d'inquiétude vague, tandis que sa sœur, assise au piano, le major Turner derrière elle, laissait errer ses mains sur les touches sonores. Monsieur Bonington, plongé dans un fauteuil, entretenait une conversation commerciale avec deux négociants de la cité, et Monsieur Gus Brough, caché dans un angle du salon, affirmait à un interlocuteur attentif que l'on mangeait bon an mal an dans la capitale des trois royaumes 1 580 953 moutons et 83 466 bœufs, et que l'on importait en France, en Angleterre, 75 956 343 œufs. Londres est la première cité du monde, poursuivit l'honorable membre de la Société des statistiques, heureux de se voir écouté. Nulle part ailleurs vous ne trouverez la même distribution régulière de tous les métiers et professions. Savez-vous, monsieur, que nous comptons à Londres 2 500 boulangers, 2 950 cordonniers, 1 080 marchands de tabac, 1 050 marchands de fromage. Vous le saviez ? Et comme son interlocuteur ne répondait pas, « Vous ne le saviez pas, » conclut M. Gus un peu étonné, cependant de son silence. « Et ce sont là les premières notions de la statistique. Tenez-moi qui vous parle, monsieur. J'ai écrit un mémoire, un fort long mémoire. Dieu pardonne, duquel il résulte, d'après les chiffres puisés aux meilleures sources, que les 8 compagnies chargées de l'approvisionnement de l'eau dans les 26 quartiers de Londres fournissent actuellement 191 066 maisons, et que les fournitures réunies présentent un total énorme de 592 936 902 hectolitres. Voilà des faits, monsieur. Et pourtant, qui les connaît ? Personne. Il n'y a guère que Gus Brown de Piccadilly qui s'occupe de ces questions, et vous-même, monsieur. » Monsieur Gus attendait une réponse, mais son partenaire se contenta de sourire et de s'incliner en signe d'assentiment. Monsieur Gus le regarda étonné. Il commençait à craindre de n'être pas compris quand il se sentit frapper légèrement sur l'épaule. Il se retourna et aperçut Samuel Hampden. « Oh, c'est vous, mon cher monsieur Stamm !» s'écria monsieur Bluff en l'entraînant à quelques pas, après avoir salué son auditeur du geste. « Vous me croirez si vous voulez, mais je suis enchanté de vous rencontrer !»« Vous êtes trop bon, » murmura Samuel. « Et puis j'ai un renseignement à vous demander. » « De quoi s'agit-il ? » Mais de la personne qui causait avec moi quand vous êtes venu me trouver. Ah, monsieur Tidd, fit Samuel. S'appelle-t-il monsieur Tidd? Oh oui, de père en fils, et c'est, je puis vous l'assurer, le plus sourd de tous les commissaires-priseurs des trois royaumes. Monsieur Gosbluff n'en demanda pas davantage. Le silence de son interlocuteur lui était suffisamment expliqué, et il ne songea plus désormais à lui. D'ailleurs, il venait d'arrêter ses regards sur Samuel. Il avait été comme frappé de l'altération de ses traits et de la pâleur de son visage. « Vraiment, monsieur Sam, » dit-il aussitôt avec vivacité, « « Savez-vous que je vous trouve l'air bien préoccupé ce soir ? J'espère qu'il ne vous est rien arrivé de fâcheux depuis hier. »« Non, non, je vous l'assure, » répondit Samuel. « Mais vous me cherchiez quand je vous ai rencontré. »« En effet, qu'y a-t-il donc ?» Samuel s'efforça de sourire comme pour donner le change sur l'importance de ce qu'il avait à dire. « Il y a, » reprit-il un instant après, « que j'ai un petit service à vous demander. »« À moi, mon jeune ami, ben je suis tout à vous. »« Vous connaissez beaucoup mon patron ?»« Sans doute. »« Monsieur Bonington a en vous une confiance qui s'explique quand on vous connaît. » « Votre patron sait ce que je vaux, le peu que je vaux. » Et il vous écoute. « Eh bien, j'ai pensé, pour des raisons que je ne puis vous faire connaître maintenant, qu'il serait peut-être imprudent de lui dire notre rencontre d'hier. »« Ah, dans le quartier de la flotte. » »« Précisément. » « Qu'à cela ne tienne, monsieur Sam, puisque vous le désirez, je ne lui en dirai rien. Je vous serai obligé. Il y a donc quelque mystère là-dessous ? Peut-être. Une jeune miss que l'on va consoler, mauvais sujet. Allons, allons. Soit je serai muet comme la tombe. Le caissier de monsieur Bonington n'a pas d'ailleurs de compte à rendre à ce sujet. ni à son patron, ni à moi, M. Gusbrough de Piccadilly. » En parlant ainsi, M. Gus serra les mains de Samuel, et ce dernier, l'ayant de nouveau remercié, s'éloigna, le front moins sombre et le visage moins pâle. Il n'eut pas plus tôt tourné les talons que l'honorable membre de la Société de Statistique se prit à remuer la tête en signe de mécontentement. Murmura-t-il entre ses dents. Voici un jeune homme qui prend une singulière route pour gagner la confiance de ses patrons. Mais M. Boddington est le meilleur de mes amis, et sans manquer à la promesse que j'ai faite, je puis bien le mettre au moins sur ses gardes. D'ailleurs, ce Samuel m'a toujours paru nourrir de mauvaises pensées. Qui sait s'il en est encore temps ? M. Brough ne poussa pas plus loin ses réflexions. M. Boddington était assis à quelques pas, il marcha vers lui et le prit vivement à part. « Boddington, lui dit-il alors à voix basse et rapide, il faut que je vous parle. »« À moi ?» fit M. Boddington. « Oui, à vous-même, et j'ajoute mon ami, qu'il s'agit d'une affaire importante. » M. Boddington ouvrit les yeux et se leva à demi. « Voyons donc, Brough, répondit-il avec un commencement d'inquiétude commerciale, aurait-on reçu quelques dépêches télégraphiques au Royal Exchange ?» Oh, il s'agit bien de cela. Ma maison de Calcutta aurait-elle suspendu ses paiements? Oh, non plus. M'expliquez-vous. Bien voici. Vous avez chez vous, je crois, M. Samuel Hampden. Charmant jeune homme. Le connaissez-vous? Bon, depuis 2 ans, oui, qu'il nous est arrivé de Calcutta. « Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mon ami, franchement, et sur votre honneur. Que pensez-vous de lui ?»« Mais rien, je suppose, sinon que depuis 2 ans, il ne nous a donné que les meilleures garanties de moralité. Et il mène une conduite régulière ?»« Je le pense. Il ne vous est jamais venu à la pensée qu'il pouvait vous tromper. » Oh, nullement, d'ailleurs, M. Samuel Hampden n'est point d'un caissier ordinaire. C'est un de nos forts actionnaires et il n'a pas moins de 10 000 livres sterling dans notre maison. Alors, cela vous rassure. M. Boddington se prit à rire. Sur mon honneur, dit-il avec enjouement, que vous a donc fait notre ami Samuel? Jamais je ne vous ai vu ainsi. Auriez-vous appris quelque chose sur son compte ? Non, je n'ai pas dit cela, repartit M. Brough, qui commençait à être embarrassé. Et vous ne pouviez pas le dire, mon ami, car Sam est un jeune homme assidu, probe, d'un esprit droit, incapable de tromper personne. Et je ne vous cache pas que j'ai sur lui des vues qui me l'attacheront encore plus étroitement. « Comment cela ? Vous le saurez bientôt. »« Bien quoi donc ? Songez-vous donc ?» Le visage de M. Boddington avait pris tout à coup un air de gravité, sous lequel perçait comme un reflet de mélancolie qui ne lui était pas habituel. « Voyez-vous, mon ami, poursuivit-il à voix lente, quel est l'homme qui, arrivé à mon âge, peut impunément regarder dans le passé, sans crainte de s'y trouver en face d'un remords ? Êtes-vous bien sûr, vous-même, mon cher Gus, vous, l'honneur et la probité de Piccadilly, êtes-vous bien certain de n'avoir pas au moins une faute à vous reprocher, une faute dont le souvenir pèse sur votre cœur et troubla de certaines heures votre existence ? Mais la vie nous emporte tous, mon ami, et c'est vainement que nous chercherions à lutter contre le courant. Cependant, moi, je veux tenter de retourner une fois encore vers ce passé qui n'est plus, et où j'ai laissé le repos de ma vie. Que dites-vous ? Dit Brough étonné. Même en quelques mois, j'aurai quitté Londres. Vous ? « Avant une année, oui, je serai à Calcutta. Est-ce possible? Là seulement m'attendent le pardon et le repos. Mais vos enfants? Bonington sourit doucement et montra du regard le groupe formé par Miss Ophelia et le Major Turner. « Cela me suivront, répondit-il. L'Inde est le pays des amours romanesques. » « Mais Miss Lucy, insista M. Blough. Oh, dans quelques jours, je vous en dirai plus long. » Cependant, en quittant M. Gus Blough, Samuel s'était posté dans l'embrasure d'une fenêtre et de là, il promenait son regard dans le salon. Quoiqu'il eût un vague soupçon de la vérité, bien des troubles troublaient son esprit. Il voulait à tout prix savoir laquelle de Miss Lucy ou de Miss Ophelia il avait rencontré la veille dans le quartier de la Flotte. Depuis 2 années qu'il travaillait dans la maison Bonington et compagnie, Samuel s'était toujours montré d'une assiduité exemplaire et son esprit droit et vif avait plus d'une fois utilement pesé sur les décisions prises par ses patrons. Aussi était-il traité avec les égards dû à son intelligence des affaires, et toutes les personnes qui fréquentaient la maison s'étaient depuis longtemps habituées à le considérer autrement que comme un simple commis. Miss Lucy elle-même n'avait pas pu se défendre d'une certaine sympathie pour cette nature discrète qui semblait craindre et fuir tout contact. Sa curiosité avait été vivement éveillée, et pour une enfant de son âge, cette curiosité n'était pas sans danger. Un beau matin, la jeune Miss s'aperçut qu'un autre sentiment plus doux s'était glissé dans son cœur. Et comme elle n'avait encore appris à rien dissimuler, Samuel ne dut pas tarder longtemps à connaître la vérité. Chose singulière, cependant, bien qu'une pareille découverte semblât faite pour lui inspirer une profonde reconnaissance, il parut d'abord en éprouver une vive contrariété. À partir de ce jour, en effet, il devint encore plus taciturne et plus froid que d'habitude, c'est à peine même s'il eut pour Lucie les plus simples prévenances. Toutefois, il est permis de penser qu'il revint plus tard de sa première impression, car au bout de quelques mois, il consentait à échanger, de temps en temps, quelques paroles avec la jeune Miss, et souvent même il la quittait avec un tendre et doux sourire. Ajoutons qu'au fond de ce sourire, il y avait toujours une profonde tristesse. Cependant, l'heure s'écoulait avec rapidité, et le salon commençait à se dégarnir. Les invités se retiraient un à un, et Samuel allait en faire autant. Une sourde inquiétude l'agitait, il était mécontent de tout le monde et de lui-même. Il eût voulu être loin déjà, et cependant il ne pouvait se résoudre à quitter son poste d'observation. Enfin, il parut faire un effort sur lui-même, et quittant la fenêtre où il s'était tenu jusqu'alors, il marcha résolument vers Miss Lucy, qui venait de pénétrer dans un salon voisin. Le salon était désert et nul ne les observait. Samuel entama immédiatement la conversation. « Pardonnez-moi, Miss, dit-il d'une voix où son émotion se trahissait malgré lui, mais si ma démarche est indiscrète, le motif qui me la dicte n'a rien qui doive vous offenser. » « Mais qu'est-ce donc, monsieur Samuel ?» demanda Lucie en levant sur lui 2 beaux regards pleins d'intérêt. « Avez-vous passé la soirée d'hier dans Lombard Street ? Pourquoi m'adressez-vous cette question ? C'est qu'hier, vers 10 heures du soir, j'ai eu le bonheur de sauver une jeune fille qu'un instant, pardonnez-moi, j'ai cru pouvoir prendre pour vous. Et où cela se passait-il ? Dans le quartier de la Flotte. Vous y allez donc souvent ? Oh, quelquefois seulement. Et M. Bonington ne vous a jamais questionné à ce sujet ? Jamais, Miss. Lucie commença un charmant sourire plein de malice et d'enjouement. Eh bien, reprit-elle aussitôt, voilà certainement qui est étrange, monsieur Samuel, et je m'étonne que vous songiez à m'interroger, moi, qui ne suis guère qu'une étrangère pour vous, quand mon père vous laisse si parfaitement libre, vous qui êtes son caissier. Samuel se mordit les lèvres. L'observation était juste. Il ne savait que répondre. Quoi qu'il en soit, cependant, poursuivit Lucie, qui s'aperçut de son embarras et ne tenait pas sans doute à le prolonger, comme je n'ai aucun secret à garder et que vous vous adressez à moi franchement, je ne veux pas vous tromper ni vous intriguer plus longtemps. La jeune fille que vous avez sauvée hier était bien Miss Lucy Bonington. Est-ce possible? S'écria Samuel. Vous, Miss, à cette heure, dans un Paris quartier? Je vous y ai bien trouvé vous-même. Oh non, moi, c'est différent. Comment donc? Ah, un secret qui ne m'appartient pas. Soit, monsieur Samuel, tous les secrets sont respectables, sans doute, mais le vôtre est d'une nature singulière. Prenez-y bien garde. À vivre ainsi isolé, le caractère s'aigrit, il s'irrite, et de bon que l'on était au début, on devient bien souvent défiant et méchant. Croyez-moi, monsieur Samuel, la fille de monsieur Bonington en sait peut-être plus long qu'elle n'en peut dire en ce moment. Et elle vous engage à bien réfléchir à ses paroles. Et sans prêter plus d'attention à la profonde stupéfaction qui se peignait sur les traits de Samuel, elle le salua avec grâce. Et alla rejoindre Miss Ophelia, à qui le major Turner racontait sa dernière chasse au tigre.